When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Témoignages, faits de société, interviews ou récits, c'est leur histoire, une série de podcasts long format du Dauphiné libéré.
C'est un témoignage plutôt rare. Dmytro Kouchnir, 42 ans, habite Kiev. Sa présence en France cette semaine est une exception, comme il le dit lui-même, puisqu'il est très compliqué pour les hommes dans la fleur de l'âge de sortir de l'Ukraine en cette période de guerre contre la Russie. En tant que bénévole dans une association humanitaire basée à Montboucher-sur-Jabron, près de Montélimar dans la Drôme, il a obtenu une autorisation. Il en profite pour raconter la vie quotidienne des habitants de la capitale ukrainienne après 9 mois de conflit. Un reportage de Zoé Barbier.
Au départ, il y a eu un exode de la population de Kiev. Pas tout le monde, mais la plupart des gens sont partis parce qu'en fait, les Russes, et on ne le savait pas, et on s'attendait pas à ça, ils nous ont attaqué de trois côtés, du nord, du sud et de l'est. Donc ils ont essayé vraiment de pénétrer la quasi-totalité du territoire. Donc ça nous a fait un choc. On n'était pas prêts, quoi. Enfin, nous, les civils, je veux dire. Mais il s'est trouvé après que l'armée était prête. Et donc ça, c'était une bonne chose. Mais au départ, la plupart des gens ont fui la ville. Donc nous aussi, on a fui la ville pendant quelques premières semaines. Après, moi, je suis rentré. Mais après avoir laissé la famille en sécurité, moi, je suis rentré dans la deuxième quinzaine du mois de mars. Il y avait encore des combats presque partout autour de la ville. Ben nous, on habite un quartier qui est proche, justement, c'est un quartier nord-ouest de Kiev, qui est proche des villes comme Boutcha, Irpine, Gostomel. Les combats se déroulaient à une petite dizaine de kilomètres de chez nous. Et on entendait ça, même s'il n'y avait pas de combat dans la rue en bas de chez nous. Mais il y a des explosions, de l'artillerie, enfin c'était complètement fou, quoi. C'était difficile, enfin moi je pensais que c'était un rêve, quoi. Tellement c'était surréaliste. Après, donc, l'armée ukrainienne a réussi à chasser les Russes de cette région, donc du nord de l'Ukraine en général, parce que Kiev c'est au nord. Et donc ça s'est calmé, les gens ont commencé à revenir, petit à petit. Ce qu'il faut dire, c'est qu'à l'époque, la ville était quasiment vide. Très peu de gens, très peu de circulation, des checkpoints partout, tout partout, tout fermé, sauf les magasins d'alimentation, pas question de restaurants ou de concerts ou de quoi, évidemment. Donc aujourd'hui, ça revit. Ça a commencé à reprendre mi-avril. Mi-avril, il y a eu les premiers retours des gens qui venaient, qui disaient alors. Mais il y en a encore qui reviennent. Hein. Enfin, on est là. Ma famille, elle est revenue au mois de début juin. Mais même là, au mois de début octobre, il y a un voisin qui est revenu, que je n'ai pas vu depuis là. Il revient, il dit « Ah ben dis donc, c'est calme, ça va quoi ?» Je dis « Ben oui, ça va !» Parce qu'aujourd'hui, Kiev ou Lviv, c'est en fait pareil. Hein. Je veux dire, l'ouest ou le nord du pays, là où il n'y a pas les combats directs de... Il n'y a pas le front qui passe, c'est la même chose. On est soumis tous au même danger. Le danger, c'est celui des missiles, des drones. Des drones qui attaquent, qui bombardent. Mais après, voilà, la vie a repris. Beaucoup de gens sont rentrés. Mais il y en a encore moins quand même. On le sent parce qu'au niveau de la circulation, il y a moins de voitures, il y a moins de monde. Mais la plupart sont rentrés et aujourd'hui, parfois, on dirait que c'est une vie tout à fait normale. Il faut il faut rester vigilant quand il y a des alertes. On voit beaucoup de militaires. On entend tout le temps des sirènes, donc des alertes aériennes quand il y a un missile qui part de je sais pas où et qui se dirige on sait pas où, ou des drones, et donc les couvre-feux systématiques. On ne peut pas sortir la nuit, c'est interdit. Puis les horaires de tout qui ont changé, du coup, hein, les magasins ferment plus tôt. Il y a parfois même des concerts, il y a parfois même du théâtre. Les gens se baladent dans la rue avec des enfants. Au départ, tout le monde avait peur, tout le monde se mettait à l'abri, mais en ce moment, il y en a tellement, c'est impossible de chercher un abri à chaque fois qu'il y a une alerte. En une journée, il peut y en avoir 5, 7, 10. Chacun fait son choix. Soit il se cache, soit il ne se cache pas. Il y en a plein qui ne réagissent plus. On s'habitue, malheureusement. Ça va par vagues, quoi. C'est des périodes où, là, les Russes, ils s'activent. Il y a le nouveau général... Le bourrin, là, et sa nouvelle stratégie, c'était de nous balancer plein de missiles, parce que, bah, tout simplement, c'est une armée qui sait faire la guerre qu'aux civils. Ils savent pas faire la guerre à l'armée ukrainienne. Ils sont nuls. Enfin, on voit, quoi. Ils sont nombreux. C'est leur seul avantage par rapport à nous. Ils sont nombreux, donc voilà, il faut prendre du temps pour s'en occuper, quoi. Mais sinon, ils sont mauvais. Ils sont mauvais. Mais le ressenti des Ukrainiens, c'est que les Russes, ce sont des barbares. Les arguments qui sortent en face pour justifier tout ça, parce que c'est quand même quelque chose qui était inimaginable au XXIe siècle, d'attaquer un pays comme ça. Ils utilisent toutes les armes conventionnelles qu'il y a. Ils les ont déjà utilisées sur nous. Comprenez ? Donc, c'est pas juste... un conflit avec des kalaches où les gens se sont un peu entretués et après ils se sont calmés. C'est une guerre avec des chars, avec des avions qui jettent les bombes sur les villes, des colonnes de blindés qui avancent, des tortures des populations civiles, des viols, des vols, réquisitions. Ils prennent sur les territoires occupés, ils arrivent, ils prennent tout ce qu'ils voient. Donc la nourriture... Ils déportent les gens vers la Russie, les enfants, tout simplement les populations dont ils ont besoin. Parce qu'ils ont l'habitude de déplacer les gens, de jouer un peu comme, voilà, comme ça. On a la bonne information. Pourquoi on a la bonne information ? Parce qu'on ne fait pas que regarder la télé et lire les journaux. C'est très bien, d'accord ? Mais on a aussi les contacts sur place. Il y a les groupes sur les réseaux sociaux... sur Telegram, il y a des informations qui viennent de toutes parts et des gens qui sont sur place, des militaires, des civils. Ben nous, on est sur place, on voit. Hein. Moi, j'ai plein d'amis qui sont dans l'armée et ce qu'ils voient, eux, ils me racontent. Donc nous, par exemple, à Kiev, on n'a pas la ligne de front, donc... Il n'y a pas d'artillerie qui est capable de nous toucher. Pour vous expliquer la différence, vous comprenez peut-être, mais on commence à être expert un peu en armement. Vous avez les missiles, donc les missiles de croisière, ça c'est des choses qui volent loin. Donc ils peuvent les balancer d'une distance de 1000, 1500 km. Donc là, on ne peut pas les toucher parce qu'on n'a pas ces missiles, nous, en Ukraine. On n'a pas. Eux, ils en ont. Et voilà, depuis la Russie, ou depuis la mer Noire, ou depuis la mer Caspienne, ils nous balancent ces missiles. Là, on ne peut rien faire. Après, vous avez l'artillerie, de longue portée ou de courte portée, etc. Donc, il y a plusieurs systèmes d'artillerie. Donc, aujourd'hui, Kiev est hors portée d'artillerie, parce que c'est, voilà, l'artillerie, ça va jusqu'à 100, 200 km au maximum. La ligne de front, ben, c'est juste ben voilà, hein, c'est la ligne de contact. Et donc, ils se prennent tout. Tout ce qui est artillerie, mine, obus, tout, ben ils se prennent tout. Donc, il y a encore des gens qui restent, qui partent pas, qui ont pas où partir ou qui veulent pas partir. Et ben moi, quand je vais par exemple chez nos amis à Zaporijjia, On va à ce qu'on appelle le point zéro. Donc le point zéro, c'est le dernier checkpoint avant la no man's land. Et après, à quelques 100 mètres ou quelques kilomètres, ça dépend, il y a les Russes déjà. Et donc c'est à la sortie de la ville, par exemple. Il y a des gens qui sont en train de travailler dans leur jardin, tranquille. Et quand c'est l'artillerie qui commence à... On entend, parce que c'est pas très loin. C'est boum. Bon, allez. Et tout le monde... Tout le monde essaye de se cacher.
Donc il y a encore des gens qui vivent normalement, même sur les lignes de front.
Normalement, non. Mais oui, qui vivent, ouais.
Qui vivent.
Qui vivent. Qui survivent. Qui survivent.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.